tout de suite, nous mettons le cap sur le Carnot où nous retrouvons aujourd'hui Nicole Duparc et Marlène Métraillé. Autour de vous, Marlène, tout un plateau de jeunes créateurs, acteurs ou réalisateurs, ainsi que la responsable de la section Léopard de demain, Chica Bergonzi.
Et oui, tout ce monde. Et pour parler de la réalité d'un léopardino lâché dans la jungle de Locarno, alors on va commencer par un simple exemple. Prenez un léopardino inexpérimenté qui croyait que tout serait simple dès le moment qu'il avait été sélectionné pour le festival. Alors le voilà en piste parmi les 380 films qui se disputent les faveurs du public et de la presse. Et cela tout au long du festival. Sans oublier que, généralement, il dispose d'une fenêtre de 2-3 jours seulement pour exister. Ce qui explique notamment la guerre d'affiches, de flyers et autres papillons. On voit par exemple des bandes organisées de colleurs d'affiches qui tapissent le trottoir aux abords de la Grande Place.
Un peu comme au festival d'Avignon, au fond. À Avignon, oui. C'est pareil, il y a des affiches partout.
Oui, c'est encore plus terrible, mais ça ressemble quand même de plus en plus. Et ces couleurs d'affiches sont suivies de près par les équipes techniques du festival qui décollent les dites affiches en rouspétant, vous imaginez. Autre réalité, comment les léopardini vont-ils s'y prendre pour attirer l'attention du millier de journalistes présents ici pendant le festival et accrédités? Journalistes, on en sait quelque chose, qui s'épuisent déjà à suivre les événements du festival. Journalistes qui, pour prendre un simple exemple, sont tous arrivés en demandant un entretien avec Nanni Moretti, l'homme de la rétrospective 08, sans l'obtenir et pour cause, le réalisateur italien qui est lui rodé aux lois de la jungle des festivals n'est là pour personne, pas de presse, seulement une rencontre détendue avec le public. Elle avait d'ailleurs lieu ce matin à 11h sous un véritable déluge, parce qu'ici, ce matin, effectivement, les éléments se sont déchaînés sur Locarno. Alors, vous avez compris, nous n'aurons pas ce midi Nanni Moretti en direct. Et c'est pour cette raison, Nicole Duparc, que vous avez jeté votre filet sur ces léopards en devenir, qui sont d'ailleurs pas tous très ponctuel, pour simplifier.
Voilà, effectivement, Chica Bergonzi devait venir accompagnée de deux jeunes cinéastes. Ben, on est là avec une léopardina, je ne sais pas comment on dit, qui est Aileen Hoffer et qui présente ici un court-métrage qui s'appelle Racine. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas Moretti, c'est parce que tout simplement, ben, c'est intéressant de voir les jeunes talents, les cinéastes de demain et d'explorer un petit peu cette création qui va dans des dimensions comme ça très différentes. Alors peut-être première question à vous, Aileen Hoffer, comment vous vivez cette première, je dirais, non pas confrontation, mais rencontre non seulement avec le public ici à Locarno, mais également avec vos collègues, ces jeunes cinéastes que vous découvrez?
Je trouve que c'est une rencontre magique. Il faut juste préciser que j'ai été pendant presque 5 ans journaliste et que j'ai couru les festivals aussi de mon côté.
Donc là, c'est de l'autre côté
exactement.
Du miroir ou de l'écran.
J'ai vraiment beaucoup apprécié le fait de voir les réalisateurs présenter leurs films, de les voir nerveux avant, de les voir détendus après. Et là, quand on est de l'autre côté assis et que le film commence, et on arrête de respirer, on est alerte, on se retourne sans arrêt pour voir si les gens dorment, si les gens dorment pas.
Vous avez spécialement arrêté de respirer parce que je crois que la première projection du film, il y avait
un problème de netteté. Oui, le projectionniste n'avait pas bien fait le point, malheureusement. Donc
voilà, mais vous étiez tellement ému, on va dire, que vous ne saviez pas si c'était votre œil, peut-être qui.
Après, ça a été confirmé par la suite que le reste du public l'a vu aussi un peu flou, mais du coup, ça a été rectifié pour les deux projections suivantes. Mais donc voilà, en fait.
Et la rencontre avec les autres cinéastes venus de d'un peu partout, hein, Russie, Australie, Roumanie, France.
Donc nous, on est déjà dans une sélection qui est nationale des Léopards de demain. On est 13 films qui concourront pour le prix national suisse. Et on est divisé en deux parties. Donc on a vu donc 2 fois 6 et 7 films. Juste avant la première projection, lundi, on a déjeuné tous ensemble et c'était absolument divin de se rencontrer, de voir qui était qui. Et surtout, c'était marrant parce qu'on avait tous le même stress. Il y avait des moments d'absence totale où on préparait un peu le discours qu'on devait tenir devant le public avant d'arriver sur scène. Et surtout, après la projection, c'est là qu'on s'est retrouvés parce qu'on avait tous vu le film de l'un, de l'autre. Et puis, on a pu commenter, discuter. Et le jour d'après, on est tous plus ou moins retournés voir nos films respectifs. Et ça crée des liens, ça tisse des liens. Enfin, typiquement, moi, j'ai beaucoup aimé le film de quelques personnes. Et je me réjouirais dans l'avenir de pouvoir leur emprunter leur chef opérateur ou un de leurs techniciens pour pouvoir créer des ponts aussi, notamment pas qu'avec le cinéma roman, mais avec le cinéma de l'autre côté du Röstigraben, zurichois notamment.
Alors, on évoquera tout après votre film, bien sûr, Racine. Keka Bergonzi, peut-être un mot justement sur cette sélection. Eileen Hoffer vient de le dire, il y a deux compétitions, donc une compétition suisse et une internationale. Pourquoi deux compétitions et pas une? Les films suisses tiennent pas le...
Non, c'est pas ça. En fait, il faudrait regarder un peu l'histoire de la section qui est relativement jeune comme section du festival. Avant, on n'avait même pas une compétition internationale tout court. On avait des monographies, exactement.
Hein, voilà.
Donc, si vous voulez, la section est aussi quelque chose qui se développe, qui change et qui évolue d'une certaine manière. On a inauguré l'année passée l'internationale et il est vrai que l'idée de la section est aussi d'être une vitrine pour tout ce qui est les talents suisses. En tout cas, jusqu'à l'année passée, c'était le cas. Je me suis effectivement posé la question de est-ce que c'est juste, maintenant qu'on a une compète internationale, de continuer avec la nationale. Alors... pour l'instant, on a fait une sélection qui veut être encore plus stricte. Je dirais, on a moins de titres que d'habitude.
Plus pointu dans les choix.
Absolument, exactement. Justement, parce que on pense que les films suisses ne doivent rien cacher par rapport aux films internationaux.
Plus complexe.
C'est clair qu'il y a un autre souffle. Ça, c'est évident, parce que quand on parle d'un international, on parle d'un parcours à travers les 5 continents. Les Suisses, c'est un tout petit peu différent. Mm-hmm. Mais je vois que par rapport à la ligne générale, cette année, ça va un peu mieux. Mais on va encore en discuter
développer,
c'est sûr.
Et peut-être un jour avoir qu'une seule compétition pour tout le monde.
Parce que c'est un festival international, pourquoi pas.
Ouais. Alors, donc, il y a un certain nombre de films de diplômes, d'écoles, mais pas seulement. Alors, expliquez-nous un peu, Keka Bergonzi. De quelle façon vous faites votre marché durant l'année?
Mais vous savez, on dit toujours le festival de Locarno en général est le festival de nouveaux talents. L'idée de base de la section Léopard de demain est vraiment la section qui va chercher là où ils sont encore en train d'apprendre le langage cinématographique, les réalisateurs de demain. Donc on travaille effectivement beaucoup avec les écoles, les petites productions indépendantes. Le premier choix qu'on fait, c'est vraiment du film de réalisateurs qui n'ont pas encore fait des longs métrages.
Donc ça, durant l'année, par exemple, vous voyez combien de courts métrages?
Cette année, on a plus ou moins vu avec mon équipe 2500 courts métrages.
D'accord, donc
facilement, oui.
Voilà, c'est quand même énorme. Hein,
c'est énorme,
pour faire un choix. Keka Bergonzi, dans la compétition internationale ou dans les cinéastes du présent, on voit qu'il y a un certain nombre de thématiques un peu transversales, l'immigration, la désintégration familiale, c'est des thèmes comme ça qui ressortent. Pour ce qui concerne les Léopards de demain, il y a également des thématiques particulières, mais je veux dire, il y a certaines mises en relief que l'on peut faire.
Moi, je dirais qu'en général, pour le court-métrage, surtout quand il est réalisé par des jeunes réalisateurs, il y a des univers récurrents parce que on a la tendance à parler de notre propre expérience. Donc les thèmes liés à la famille, à l'adolescence, le passage à l'état adulte. Donc c'est clair. En même temps, je trouve que cette année en particulier, on a vraiment essayé de raconter des histoires très très très différentes. Surtout l'approche stylistique de narration veut être une approche différente. Parce qu'on voulait donner l'idée de diversité.
Alors on va prendre un exemple, le vôtre bien sûr, Eileen Hoffer, avec un premier extrait mixé de votre film Racine, on écoute.
Rahat? Hazır ol. Günaydın arkadaşlar. Türk'üm.
Türk'üm.
Doğruyum.
Doğruyum.
Çalışkanım.
Çalışkanım.
İlkem.
İlkem.
Özümden çok sevmektir.
Özümden çok sevmektir.
Baba bak.
Bu ne baba? Kadın gibi boyamışsın yüzünü. Utanmıyor musun?
Aline Offert, on l'a comme ça quand même un peu entendu, on se trouve en Turquie.
En Anatolie.
En Anatolie. Et dans Racine, c'est le portrait d'une relation entre un père âgé et son jeune fils. La mère, on ne sait pas où elle a disparu. Dans une petite ville comme ça d'Anatolie, sous la neige, rude, un climat rude, des gens rudes, une vie rude. Et ce père-là, qui vit sans beaucoup d'argent, eh bien, il va se débrouiller pour... Vous nous racontez la suite, pourquoi ?
Pour essayer d'offrir un cadeau digne de ce nom à son petit garçon qui va fêter ses 9 ans. Et le père, comme vous le dites, il est rude. Effectivement, il y a un côté turc derrière ça, qui est l'homme macho, qui est censé lui ramener le beurre et de quoi nourrir sa famille, et qui est sans emploi, donc faible, indirectement, et qui, durant toute la journée, aura une attitude très détournée, un peu lointaine à l'égard de son fils, pour éviter justement d'affronter le petit garçon lui demande, lui regarde à droite à gauche, il est dans l'attente d'un cadeau, et le père s'en rend forcément compte, et il est un peu embêté parce qu'il n'a pas réussi à trouver cette solution pour lui apporter le cadeau qui lui fera plaisir. Parallèlement à ça, il y a une autre histoire qui est en toile de fond, c'est ce village froid, justement, rude, qui est quand même menacé par la construction d'un barrage qui va être construit, et ça dans la journée du côté de l'enfant qui est à l'école et du côté du père qui, lui, est dans un café à jouer et à boire du thé en attendant que la journée se passe. Les deux vont apprendre la construction de ce barrage et avoir une réaction diverse.
Alors, d'où vient cette histoire ? Une histoire que vous avez eu des difficultés à monter. Hein. Financièrement, juste avant l'interview, là, que vous avez essayé de convaincre pas mal de producteurs et que ça a été difficile de monter ce film.
Ça a été difficile parce que je ne suis pas réalisatrice, je n'ai pas fait d'école de cinéma, je n'ai pas d'expérience dans ce domaine-là.
Et puis prise de risque, puisque vous avez tourné avec des acteurs... Du coin.
Non professionnel, à part le père qui lui est Jacqueline Hercession, qui est venu de Paris. Je l'avais vu jouer dans le film Le Grand Voyage d'Ismaël Ferrucchi qui était présenté à la Mostra de Venise. Et puis, comme il parlait français et turc dans le film, je me suis dit, mais c'est la personne idéale. Je l'ai appelé, il a accepté par coup de cœur de me suivre. Parallèlement à ça, effectivement, on a été faire un repérage dans plusieurs petits villages, dans différentes régions de Turquie. L'histoire du barrage est inspirée d'un fait réel. Dans le sud-est de la Turquie, qui est majoritairement peuplé de Kurdes, il y a un barrage, le barrage d'Ilissou, qui en 2012 sera construit et qui va réduire à néant plus de 150 villages qui se trouvent sa ligne, sur son objectif, et menant à la délocalisation de 55 000 villageois. Donc ça a été le point de départ qui m'a intriguée.
D'accord, donc vous êtes partie de ce fait-là réel, en fait, pour construire, bâtir cette histoire.
Exactement. Parallèlement à ça, en 2003, j'avais séjourné plus de 7 mois à Istanbul, où j'avais fait un post-grad en histoire du cinéma. J'avais fait une spécialisation dans le cinéma turc. Et mon thème...
Et pourquoi une spécialisation dans
J'ai
le
cinéma J'ai des origines. Ma mère est turco-libanaise, c'est pour ça. Et c'était mon occasion de pouvoir relier des liens avec justement mes racines. Et mon travail de recherche a été sur l'exode rural, ponctué par après l'émigration forcée. Et ce film, finalement, c'est le point de départ d'une émigration qui va être forcée. Celle de devoir quitter son village suite à la construction d'un barrage et de ne pas savoir vers quoi le futur va être tourné.
Alors un court-métrage qui est très très bien tenu, un thème effectivement qui est décliné cette année à Locarno dans un certain nombre de films. On termine juste avec vous, Kika Bergonzi, peut-être le mot de la fin pour nous présenter juste le programme du jour, puisque c'est le dernier volet aujourd'hui
de cette
sélection.
Un petit mot. Ouh là là, c'est difficile, ouais. Justement. Alors, parce que c'est des films toujours très différents. Je vais juste regarder la liste parce que on a quand même choisi une cinquantaine de films cette année.
Donc aujourd'hui, il y a 4 films en gros à découvrir, mais peut-être juste nous dire un mot, nous faire envie avec...
Un film danois, mais d'un réalisateur qui vient de Nouvelle-Zélande, très poétique, peut-être un des plus poétiques personnels de la compétition. Le seul film des États-Unis, américain, très très très particulier. Un film de Carlos Chahine, qui est un acteur français et qui va aussi à la recherche d'une certaine manière de ses racines à travers son premier film au Liban. Et puis on va, disons, terminer en beauté parce qu'on a beaucoup souffert aussi. Si dans cette compétition, il y a une vraie souffrance de la part de ces jeunes réalisateurs, avec quand même une petite comédie, un petit bijou qui est vraiment un hommage au cinéma.
Merci à vous deux.
Merci.
Merci.
La comparaison du peuple allemand avec d'autres peuples suscite en nous des sentiments gênants que je tente de surmonter de toutes les façons possibles. Est-ce donc vraiment le peuple qui est réveillé? Quant à Wagner, il ne veut rien savoir de cette vertu archi-allemande qui ne cesse de s'interpeller elle-même. Tendance qui, surtout depuis qu'elle profite des ondes, a commencé à donner l'idée aux autres nations de se sentir français, anglais, italien, tchèque et surtout autrichien. Alors que Goethe et Schiller ont partout promu l'esprit allemand sans jamais parler d'esprit allemand, ces spéculations remplissent toutes les librairies et tous les magasins d'estampes, tous les théâtres soi-disant populaires, c'est-à-dire d'actions, de grossières images aussi nulles qu'insipides, toutes estampillées comme une recommandation du label allemand, et encore allemand pour attirer le chaland.
Voilà, changement d'équipe autour de ces micros. On entendait à l'instant le comédien José Lillo dire un texte de l'allemand Karl Kraus, un polémiste qui écrit ce texte en 1933 et qui est le centre du film Walpurgis, le film moyen-métrage que présente ici dans la section Play Forward, le lieu d'expérimentation, Frédéric Chauffat. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous avez présenté hier ce film au public et finalement vous êtes arrivé en disant « Ceci n'est pas un film, ceci n'est pas une fiction, ceci n'est pas un documentaire, c'est un ovni ». Vous confirmez ?
J'ai dû dire des choses comme ça. Oui. Sur l'affiche, on l'a nommé un essai cinématographique. Alors, je ne sais pas si ce n'est pas un film, c'est en tout cas ni une fiction ni un documentaire, ça c'est sûr.
C'est-à-dire qu'en fait, tout commence sur un coup de cœur, le coup de cœur en fait du comédien José Lillo, par rapport à ce texte-là.
Alors Karl Kraus est un pamphlétiste satiriste autrichien, et pas allemand, qui a été très très influent dans le début du siècle, enfin de 1900 à 1936, date de sa mort.
Donc il écrit en Autriche ce texte.
Il écrit en Autriche, oui. Début du siècle, c'était l'Empire austro-hongrois, enfin c'était un seul pays. Donc il peut se permettre de critiquer l'Allemagne depuis l'Autriche en faisant presque partie. À cette époque. Et en 1933, donc deux mois après l'accession de Hitler au pouvoir, il se met à écrire un cri de 300 pages qui va parler de toute l'horreur, de tout ce qu'il voit autour de lui, de ce qu'il lit dans les journaux, du silence de la communauté internationale autour de lui. Et il va dénoncer tout ça, tout ce qu'on a pu apprendre après la guerre. Il le savait déjà rien qu'en ouvrant les yeux, en regardant ce qui se passe autour de lui.
Un texte prémonitoire qui, étrangement, ne sera publié en allemand qu'en 1952 et traduit en français qu'en 2005.
Exactement, il n'y a aucune traduction anglaise. Il existe une traduction japonaise et espagnole, mais c'est tout. Alors que c'est un auteur très influent, très important. Et c'est vrai que ça part d'un coup de cœur du comédien José Lillo qui découvre ce texte lors de sa parution, il y a 3 ans, et qui va commencer à le décrypter, à le dévorer, à le lire, à l'analyser, et à en faire une sorte de montage plus court de ce texte pour le mettre sur scène.
Et petite anecdote marrante, vous rencontrez ce comédien lors d'un voyage sur le Carnot. Et c'est
Absolument.
Là que naît aussi l'idée de ce film qui revient ici, sélectionné à Locarno.
Alors, c'est pas l'idée du film à ce moment-là, mais c'est pour moi aussi la découverte à travers ce qu'il me raconte de ce livre, qui est déjà pour moi une première surprise, même juste par ses paroles, de se dire en 33 on savait déjà tout ça. Et ensuite, c'est en découvrant en mai, il y a une année, son spectacle, qui était une sorte de monologue de 2 heures, criant, disant, jouant ce texte, qui va être là vraiment le mouvement déclencheur en me disant... C'est sublime, comment faire passer cette voix plus loin, comment continuer la discussion, comment faire un essai visuel et sonore et musical là-dessus. Et un ou deux mois plus tard, je lui ai proposé de faire ce film avec moi.
Et là, toute la difficulté était de mettre le texte très fort en évidence avec le moins de fioritures possible autour, si je simplifie.
Alors ça, c'est ce qui arrive au résultat, c'est-à-dire qu'il y a eu des essais de ma part, de notre part. Comment est-ce qu'on met un texte? Comment c'est pas du théâtre filmé? Parce que dans son cas, il l'a mis sur scène, mais c'est un texte littéraire, même s'il est très oral, très parlé dans sa façon. Il a une écriture très très riche. Et en effet, chaque essai que j'ai pu faire au niveau du traitement de l'image, au niveau de la mise en place de ce personnage, parce que c'est un gros plan pratiquement unique sur ce comédien, dans un enregistrement presque en un plan séquence d'une heure, en le mettant dans différents cadres, en essayant dans différents lieux. Et finalement, chaque lieu donne une redondance, essaye de détourner le propos pour le coller à une actualité. pour moi, c'est très important que ce texte soit d'actualité, parle à nous à aujourd'hui, mais on ne peut pas en faire une sorte d'aplat tout de suite avec une symbolique trop forte.
Vous disiez, par exemple, pour qu'on comprenne mieux, vous avez tenté l'expérience de le faire lire, le texte, en étant dans un supermarché, la caméra dans un caddie. Et finalement, vous vous rendrez... Il y avait une surabondance d'informations qui nuisait au texte.
Exactement. En fait, ce projet s'est fait de manière très très libre. J'ai eu la chance de bénéficier d'une bourse de l'État de Genève qui m'a permis d'être sur mon travail et pas sur ce projet, qui m'a permis de faire ce projet vraiment de façon... comme je rêverais de faire chaque film, c'est-à-dire de façon très instinctive, en me disant, j'ai ce texte, mettons-le dans un train, mettons-le sur des voies de chemin de fer, mettons-le en effet dans un supermarché, mettons-le dans un parking souterrain. Et chaque fois de faire réciter, de faire jouer ce texte-là au milieu et de voir qu'est-ce que ça donne d'entendre parler d'Hitler, de Himmel, de Goebbels, des tortures faites aux juifs, aux opposants, aux socialistes, aux communistes, quand on est dans un cadre totalement moderne et quotidien. Et en fait, à chaque fois, ça ramenait à une sorte d'aplatissement du message, qui était, Migros égale écrasement de la société, parking souterrain égale... Donc, voilà, il fallait se sortir de tout ça pour en fait être le plus possible en abstraction et entendre le texte et entendre tout ce qu'il y a à dire, toute la richesse du propos.
Toute la colère, c'est un cri de colère.
Absolument, oui.
Et donc, vous choisissez l'option de le faire dire ce texte là où vous travailliez à l'époque, dans une ferme isolée, avec des décors froids, très simples. Et finalement, il va dire ce texte par -5 degrés, précisez-vous, d'une prise. Et c'est ce qui va constituer la base du film.
Oui, absolument. C'est tout d'un coup, je me suis mis à filmer une orée de bois près de cette ferme. Je me trouvais et d'être pris en fascination dans ces images devant ces ambiances matinales, hivernales, c'était cet hiver. Pour finalement, après un mois de tournage d'images, je me suis dit, mais c'est au milieu de ce champ que ça va être fait. Et il faut le faire dans un seul cri aussi, c'est-à-dire pas le découper, le hachurer, faire une phrase revenir, mais y aller d'un seul trait et laisser accoucher, laisser sortir, émerger ce texte de cette façon-là.
Mais on l'a bien compris, c'était quand même une sélection, puisqu'il y avait 360 pages, je crois exactement.
Absolument,
au départ,
ouais.
Et vous en avez gardé une trentaine, dont vous gardez finalement... 1 heure sur 2 heures de spectacle.
Donc une quinzaine de pages.
Comment vous avez sélectionné, comment vous avez construit ces extraits?
Alors toute la première partie de la sélection a été faite par José Lillo, qui est vraiment le porteur de ce texte, qui m'a vraiment amené à ce texte. Lui, il l'a réalisé, comme il l'explique, vraiment par une lecture, en se disant qu'est-ce qui me touche aujourd'hui, qu'est-ce que je comprends aussi par rapport à ce qu'on sait aujourd'hui, quelque chose qui est écrit en 33, beaucoup de parties de l'histoire sont venues jusqu'à nous, d'autres ont été oubliées, les personnages ont disparu, et comment lire, qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui touche, qu'est-ce qui marque par rapport à ça. Donc il en a fait une sélection très importante, qui est vraiment pas aisée, mais qui l'a fait, je crois, de façon assez organique pour arriver à ces 30 pages. Et ensuite, moi, c'est vraiment été au montage, en réfléchissant parfois, en modifiant l'ordre et en essayant d'aller de façon la plus directe possible, sans prémâcher le travail, sans donner une sorte de rythme complaisant qui fait qu'on doit être croché par l'histoire du début à la fin, mais ça donne à penser, ça donne à réfléchir.
Peu de respiration, ce qui faisait dire hier à quelqu'un du public qui vous a demandé si c'était volontairement que vous aviez fait du public une victime finalement. C'est joliment dit, mais c'est la réalité aussi.
Mais absolument, si on fait un cri et que personne se sent agressé par ce cri, ça sert à rien de crier. Enfin, le but n'est pas d'agresser, mais le but est de se faire entendre. Et je crois que là, c'était important pour moi, de mettre aucune respiration et que ce soit vraiment l'assommoir. On entend quelque chose et on va jusqu'au bout. Et à la fin, on ressort et là, on a le temps de réfléchir. Il y a des moments où il faut entendre et des moments où il faut laisser résonner.
Donc, ce film est projeté ici dans une section particulière, expérimentale. Quel avenir lui voyez-vous finalement? En tout cas, pas un avenir dans une salle, ça c'est certain, mais quand même, c'est un film qui va pouvoir être utile et ressortir par-ci, par-là.
Alors c'est un avenir qui est encore en suspens. On va voir ce qui se passe. Il y a des festivals qui me l'ont demandé, donc il y a une suite tout de suite à ce festival de Locarno. On va voir comment ça se déroule. Il y a aussi un travail qui va être fait avec les éditions Agone, qui sont les auteurs de l'édition de cette traduction de Pierre Desus, donc en français. Il y a un travail qui pourrait être fait ensuite avec les écoles. Enfin, pour moi, il a une piste parallèle qui va pas être sur le marché commercial du cinéma, mais qui va être une piste de réseau de salles alternatives différentes. Et tout un réseau de salles aussi intéressées qui sont des programmateurs de musique concrète et expérimentale, dont les deux musiciens, duo Christophe Carole, ont fait une bande son que je trouve vraiment extraordinaire, qui est un travail du début jusqu'à la fin de sons triturés, de musique concrète, et qui accompagne le chaos de cette parole.
Et voilà, c'est sur cette parole d'ailleurs qu'on va terminer cette émission, Martine.
Oui, Marlène, merci à vous, merci à Nicole et à Bastien Meuclic sur la technique. À Locarno, un rendez-vous particulier pour demain?
On rencontrera en tout cas la directrice de la Cinémathèque belge qui vient ici avec une sélection de films, Gabrielle Kless. Et puis, on vous donnera aussi à écouter quelques extraits du show. On l'imagine comme ça, puisqu'on ne l'a pas vu, que Nanni Moretti a donné ce matin au public du Festival de Locarno. On s'est organisé pour avoir un enregistrement de ses propos.
Merci Marlène, à demain donc.